Le carême est un temps de tentation. Le carême est un temps de tentation parce que c'est un temps de purification. Le carême est un temps de tentation pour autant qu'on ait pris un certain nombre de résolutions, pour autant qu'on cherche ensemble à s'approcher, se rapprocher davantage du Seigneur. Il est donc juste que nous commencions ce carême en nous mettant clair sur ce qui constitue pour nous des tentations. Parce que dans la première tentation ici, où est le problème ? Tu as faim, plus que faim. Au bout de 40 jours, tu peux en mourir. Tu es le Fils de Dieu et tu peux faire que des pierres deviennent des pains. Est-ce que nous n'avons pas l'obligation de préserver notre vie ? Alors on pourrait répondre, on ne fait pas de miracle pour soi-même, même si on est le Fils de Dieu, pas pour soi-même. Où est-ce qu'on est allé chercher ça ? Il est bien sorti de l'eau du rocher. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, le peuple avait soif au désert, Dieu a dit à Moïse de taper le rocher avec son bâton. Il en est sorti de l'eau. Ce qui était également un symbole, ce qui était le signe que d'un cœur dur comme de la pierre, il peut sortir de l'amour. Mais au-delà de ce symbole, il y avait d'abord cette réalité. Si donc d'un rocher il peut sortir de l'eau, combien plus des pierres peuvent devenir du pain ? Elles peuvent même devenir parlantes, des témoins de l'amour de Dieu. C'est ce que nous entendrons au dimanche des Rameaux, à la fin du carême, lorsque les disciples acclament Jésus et que les pharisiens protestent. Et Jésus répond, si eux se taisent, les pierres crieront. La deuxième tentation, d'accord. On comprend que Jésus refuse quand le diable lui demande de se prosterner devant lui. Ça, pas de contestation possible. Mais dans la troisième tentation également, jette-toi dans le vide, des anges t'empêcheront de t'écraser. Où est le problème ? Jésus n'a-t-il pas marché sur les eaux alors que la tempête soufflait, les vagues étaient contraires, la barque ne pouvait pas avancer. Et il a même demandé à Pierre de venir le rejoindre, de marcher sur l'eau. Et là aussi, il y avait toute une symbolique, c'était marcher sur les eaux de la mort. Où est le problème également ? De ces trois tentations pour nous, esprit moderne, seule la deuxième, en réalité, nous semble réellement répréhensible. De même que des trois satisfactions qu'elle symbolise, assouvir sa faim, détenir le pouvoir et la gloire, jouer avec la mort, c'est sans doute la deuxième qui est la moins recherchée par nos contemporains. Ils ont manifestement pris conscience, nous avons pris conscience aujourd'hui, de tous les tracas qui sont inhérents à l'exercice des responsabilités. Qui veut aujourd'hui se dévouer pour vraiment assumer ses responsabilités ? Pour avoir la notoriété, certainement. Mais pour exercer le pouvoir légitimement, avec toutes les responsabilités qui l'accompagnent, et toutes les difficultés, comment comprendre autrement que la politique n'attire plus les meilleurs ? Quand on regarde quand même objectivement les candidats aujourd'hui, ils ont accepté ce mot d'ordre, ils sont tous devenus normaux. Tandis qu'à l'inverse, les deux autres satisfactions, regardez à la télévision les émissions culinaires, ou à l'inverse, pour jouer avec la mort, tout ce qui est effectivement toutes les images d'aventure et de prouesse, ça, il y a du succès. Je voudrais m'attacher aujourd'hui à un thème qu'on retrouve sans cesse, qui est transversal à tous les milieux et tous les univers, qui est la condition d'un carême réussi. La capacité à dire non. Apprendre à refuser. À dire non. Et pas seulement aux tentations. Mais parfois à des invitations où le diable ne joue en apparence aucun rôle. C'est normalement un véritable effort de carême. Pas seulement la condition, mais un effort. Ça peut être notre effort de carême. Dire non pour nous chrétiens qui, en principe, cherchons plutôt à faire plaisir. Enfin, en principe. Qui cherchons à nous rendre agréables, à nous rendre utiles, à rendre service. Alors évidemment, ça ne s'adresse pas à tous ceux qui sont déjà les champions du refus. Il y en a, on en connaît tous autour de nous, à qui on n'ose même plus rien demander. Mais il faudrait pouvoir voir ça et apprendre d'abord cela de Jésus, pas seulement dans le récit des tentations, dans l'évangile. Voilà l'idéal, ce serait de prendre un évangile, l'évangile de Saint-Luc ou l'évangile de Saint-Marc, de le relire pour regarder toutes les fois où Jésus refuse. On peut regarder aussi, évidemment, là où, quand il accepte, mais toutes les fois où, au contraire, il refuse soit de répondre, soit d'agir. Idéalement, il faudrait faire ça en petits groupes. Beaucoup d'entre vous se réunissent régulièrement dans des petits groupes de partage, d'approfondissement de la foi. Et c'est heureux, c'est même nécessaire de pouvoir se retrouver ensemble. Ça peut être en famille, mais ça peut être entre amis ou l'ensemble. Voilà une bonne idée pour le carême, de se retrouver à plusieurs et de reprendre un évangile en disant, voilà, apprenons de Jésus à savoir dire non. Quand est-ce qu'il faut accepter? Quand est-ce qu'il faut refuser? Alors évidemment, on trouve sur Internet toutes sortes de techniques. Les techniques pour dire non, apprendre à refuser. La plus consensuelle, certainement, c'est celle qui consiste à proposer une alternative. Pour ne pas dire non, il faut proposer autre chose. Par exemple, dans la première tentation, Jésus aurait pu répondre au diable, pourquoi tu ne m'apportes pas toi à manger? Plutôt que de me faire un miracle. Apporte-moi toi à manger. Oui, vous pourriez vous poser la question, pourquoi il ne dit pas ça? Les mêmes recommandations disent qu'il faut prendre le temps de réfléchir, ne pas répondre trop vite. Pas de précipitation. Le diable sait, il joue toujours sur la précipitation et le vertige. Le vertige, évidemment, physique, 40 jours de jeûne. Ou le vertige du pouvoir, l'illusion de la puissance, ou encore le vertige du vide. Et il faut enfin, paraît-il, s'exprimer avec fermeté. Tenir bon dans le refus, s'en tenir à sa décision. Ce qui suppose déjà qu'on soit vraiment convaincu que c'est une bonne décision. Voilà beaucoup de conseils très précieux que vous pourrez retrouver, mais qui reposent, les auteurs le soulignent, sur la confiance en soi davantage, ça c'est moi qui l'ajoute, davantage que sur la confiance en Dieu. Le carême c'est cela, c'est le temps où nous reprenons davantage confiance dans le Seigneur. Et en particulier dans la vie quotidienne, pour apprendre à dire non. Jésus, c'est vraiment le maître du juste refus. Et l'évangile que nous venons d'entendre nous donne trois conditions. La première, la plus importante, c'est certainement d'anticiper. Ne pas se laisser surprendre. Saint Luc précise d'ailleurs que le diable est présent depuis le début au désert. Pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il n'arrive pas tout d'un coup. Le diable n'est jamais loin. Il y a une très belle phrase de la première lettre de Saint-Pierre qui dit « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion qui rugit, rôde. » Et il ajoute « Résistez-lui avec la force de la foi. » Et on pourrait ajouter « Ne vous laissez pas surprendre. » Tant d'événements qui auraient dû être anticipés. Je pense par exemple à ce haut responsable qui se trouve tout d'un coup attaqué très violemment dans la presse, qui est profondément déstabilisé. Il se retourne vers ceux qui l'ont nommé, il espérait un réconfort, et ceux qui l'ont nommé lui disent « Hop, donne ta démission. » Liquidé en quelques jours. Il aurait quand même pu anticiper. Je pense à toutes ces histoires navrantes, parfois terribles, de situations qu'il aurait fallu éviter en anticipant tant soit peu. Vous savez, quand certaines personnes se retrouvent la nuit, le soir, dans la chambre d'hôtel ou dans les appartements privés d'une personne qui a autorité. Parfois, j'en rencontre malheureusement et je leur dis « Mais votre maman, vous n'avez pas prévenu ?» Je pense, là, de façon plus dramatique, aujourd'hui, à la façon dont la défense de notre pays est organisée. Et en particulier, à la façon dont la population y est associée, même préparée. Qu'est-ce que ça veut dire, une défense d'un pays, sans jamais la moindre information de la population, le moindre exercice? Le problème n'est pas de savoir s'il faut rétablir la conscription, s'il faut construire des abris, mais il faut quand même... C'est ça une démocratie. C'est d'associer la population à tout ce qui concerne fondamentalement le pays. Savoir d'être capable d'anticiper. il faut quand même regarder sereinement, calmement ou lucidement les événements que nous vivons. Il peut être très largement anticipé. La deuxième condition du refus consiste à ne pas sous-estimer la difficulté. Ne pas se laisser surprendre, c'est aussi cela. Parce que la plupart de nos tentations n'apparaissent pas comme des tentations. Elles viennent le plus souvent de nos proches, de nos amis, même de nos familles, des personnes très bien intentionnées qui croient bien faire. Dans l'Évangile, il y a ce passage que vous connaissez extrêmement fort, quand Jésus annonce sa passion et que Pierre croit bien faire, il dit « Non, 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 Dieu t'en préserve. Passe derrière moi, Satan !» C'est rude. Ça veut dire « Sors du déni. Écoute ce que je te dis, dit le Seigneur. Sors du déni. » Et puis la troisième condition, il faut d'abord anticiper, ne pas sous-estimer la difficulté et ne pas chercher à le vivre seul. Des soutiens à mobiliser, des appuis à trouver. Évidemment, Jésus répond par la parole de Dieu, on dit c'est lui-même le Verbe de Dieu. C'est la façon de s'unir profondément, de revenir au sein même de la Trinité, uni à son Père dans l'Esprit. Pourquoi est-ce que nous avons tant de mal à refuser ? Assez souvent par orgueil. Pour la même raison que nous avons tant de mal à prier. Par manque d'humilité. Nous ne savons pas demander de l'aide. Dire au Seigneur, aide-moi. Même dire à des amis, à des proches, aide-moi. Ne pas le vivre tout seul. Pour pouvoir dire au tentateur, va-t'en, il faut pouvoir dire au Seigneur, aide-moi. Demandons au Seigneur, pour ce carême, cette grâce d'humilité, pour humblement demander, humblement refuser.